Donc ce soir, j'ai un message pour vous qui vient de la part de Dieu, de son cœur pour vous et qui sera prophétique. J'aimerais et je tiens à vous dire qu'en tant que prophète, le plus haut niveau de l'office du prophète, du ministère des prophètes, le plus haut niveau prophétique, c'est le message prophétique. C'est quand un message est donné à un peuple et que le peuple reçoit le message et s'aligne avec le cœur du Père. Il n'y a pas plus haut comme expression prophétique. Le premier niveau prophétique, c'est l'esprit de prophétie. Le deuxième niveau prophétique, c'est le don de prophétie. Il y en a quelques-uns entre les deux, mais le troisième grand niveau prophétique, c'est le don du prophète. Et ce n'est pas une question de hiérarchie qui est le meilleur, c'est simplement un des niveaux d'expression. Et quand un prophète vient dans une église, lorsqu'il partage un message prophétique pour l'église, alors vous devez vous aligner dans l'esprit pour recevoir de Dieu. Sinon, ça restera un message intellectuel. Et les messages intellectuels ne changent pas la vie. Ce qui change la vie, c'est la révélation. Amen. Donc, regarde, ton voisin dit ce soir, dis-lui, ton voisin, ce soir, Dieu va te parler. Et dis-lui, je vais m'assurer que tu aies bien compris. Je vais venir voir les fruits. J'aime faire cela parce que j'aime tester le niveau d'obéissance de l'Église. Les chrétiens qui ont du mal à écouter une simple directive de la part d'un homme de Dieu, comment veux-tu qu'ils écoutent ce que Dieu dit ? Bon, qui est d'accord pour dire que Dieu touche tout le monde ? D'accord, Dieu veut toucher tout le monde. Mais Dieu touche les gens au travers des gens. Et parfois, le don que Dieu te donne est emballé dans un emballage que tu n'aimes pas. Je viens de dire que c'est très profond. Et du coup, tu rates ce que Dieu te donne parce que tu n'aimes pas l'emballage. Un jour, je me souviens d'une dame qui est proche de moi et je lui ai offert un cadeau. Et cette dame voulait avoir un... C'est quoi le truc encore ? Un fer à lisser les cheveux. Un truc de malade pour les gars, nous, d'accord ? Et du coup, et moi, je prépare le cadeau, mais pour faire une blague, je place le fer à lisser dans une boîte de cafetière. Et quand on lui offre le cadeau à cette merveilleuse dame, elle prend la boîte, elle fait « C'est pas pour moi, ça !» Et puis elle me donne la boîte, je dis « Mais si, c'est pour toi !»« Ben, je suis pas une cafetière, moi, ça va pas ou quoi ?» Et c'est sûr que si tu t'arrêtes à l'emballage ou à la boîte, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là, ses copines lui disent « Mais ouvre la boîte !»« Mais non, c'est une cafetière !»« Non, ouvre la boîte !» Ben, elle ouvre la boîte et elle voit son fer à lisser. « Ah, mon fer à lisser, je suis trop contente !» Et bien entendu, je ne vise personne en ce lieu. Mais c'est clair que ça m'a pris une leçon. C'est que, vous savez, souvent, Dieu nous offre des cadeaux et des révélations extraordinaires. Mais on a tellement cette faculté de ne pas regarder là où il faut ou comme il le faut, qu'on ne voit pas ce que Dieu va faire, ce que Dieu veut faire. Donc ce soir, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Allume ton téléphone. Il faut que je m'y fasse, hein, je ne m'y fais toujours pas, moi. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Ouvre ta Bible. Dans Jean 6, au verset 1. Ce soir, Esprit de Dieu, nous te demandons de nous ouvrir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels, que notre cœur soit une bonne terre, qu'on puisse recevoir la semence de ta vie, la semence de ta parole, afin que nous puissions porter du fruit à ta gloire. Qu'il y ait des révélations, Seigneur, ce soir, de ton cœur, qu'on puisse quitter ce lieu ce soir en se disant « Je sais ce que j'ai à faire ». Après cela, verset 1, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Et une grande foule le suivait. Tout le monde dit « grande ». Une grande foule le suivait, parce que déjà, une foule, en général, c'est grande. Si tu dis « j'ai une foule de deux personnes dans ma maison », il y a un problème technique. Et j'aime le cœur du Père, j'aime comment le Saint-Esprit arrive à mettre des mots et il dit « grande foule », juste au cas où tu n'es pas sûr du nombre. Et d'une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Lorsqu'une église marche dans le surnaturel, les gens viennent voir ce qui se passe. Les gens ont soif du surnaturel, ils ont soif de la puissance. Écoutez-moi bien ce soir, Église Clé, il y a un message pour vous, pour votre pasteur et votre Église ici. Et si vous êtes de la région Occitanie, vous êtes qualifié pour ce message ce soir en particulier. Oups. Donc, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Verset 5, il dit, « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains ? Parce que ces gens n'ont rien à manger, ou pour que ces gens aient à manger. » Il dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus est trop bon. Si un jour tu es avec Jésus et tu poses la question, « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Là, tu paniques. Si Jésus ne sait pas quoi faire, là, je panique grave. Dans son cas, lui, il sait ce qu'il va faire, mais il nous teste. Et il dit, « Où allons-nous acheter des pains ?» Et il dit cela pour l'éprouver. Philippe lui répond, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Mais il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela a pour tant de gens ?» Tu m'étonnes. Le gars calcule vite, hein. Jésus dit, faites-les asseoir. Une parenthèse, quand j'ai lu ce passage plusieurs fois cette année, je me suis rendu compte, si vous lisez dans plusieurs versions, et si vous lisez la version dans Matthieu également, vous allez vous rendre compte que seuls ceux qui étaient assis ont été nourris. Et ça m'apprend une chose très puissante sur Dieu. Parfois, ne pas obéir à une simple directive t'empêche d'être nourri. Qu'est-ce qu'il y a de difficile ce jour-là à te dire, assieds-toi. Moi, je n'ai pas envie, moi, je reste debout, moi. Je suis français. Ah, ben voilà, la simple réaction prouve que j'ai raison. Je suis réunionné. Vous savez, souvent on dit, si tu veux être touché par Dieu, viens, approche-toi, on va prier pour toi. Oh non, Dieu me touche là où je suis, là où je veux, je reste assis, il me touchera aussi, je veux, touchera, ouais. Non, ne touche pas. Parce que ce soir-là, Dieu dit, par son serviteur, il va te toucher ici. Et il veut juste voir si tu as juste le caractère et le cœur d'une soumission simple, pas une soumission aveugle, une soumission juste d'obéir à une simple directive. Faites asseoir les gens dans le gazon. Et là, il s'asseye, d'accord ? Il y a beaucoup d'herbes. Il s'assied donc au nombre d'environ 5000 hommes. Il prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient... À qui ? Vous savez, le Saint-Esprit n'écrit pas parce qu'il écrit comme ça un petit mot en plus, hein. Tous les détails de la Bible sont des ressources de révélation. Quand Jésus dit, quand le Saint-Esprit écrit avec la plume de Jean, il dit qu'il a donné à manger à ceux qui étaient assis, c'est qu'il a donné à manger à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Alors, je comprends qu'on connaît très très bien ce passage. Imagine la scène. Tu es là avec Jésus, il y a 12 disciples, donc ils sont 13. Il y a 5000 personnes qui n'ont pas à manger. Et tu fais partie de l'équipe du Seigneur de compassion qui aime bénir les gens. Qui aime nourrir les gens. La Bible dit que Jésus a levé les yeux, et qu'il a vu une foule, et son premier cœur est de dire, mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ? Ok, avez-vous déjà reçu chez vous, allez, disons 10 personnes ? Tu mets la table, c'est chouette, tout est propre, tout est clean, c'est quand même fun, quoi. Tu vois quand ils sont partis ? Je veux dire qu'il faut juste que tu ramasses, tu te demandes, mais comment ils font pour manger comme ça, quoi ? Oui, non ? Et là, t'as ton mari qui simule une fatigue du dos, il s'allonge comme ça. Toi, t'es toute seule en train de nettoyer tout. Mais je veux dire, que d'entre vous, vous appréciez un peu plus quand même l'avant-repas que l'après-repas. Bon, maintenant imagine, il y a 5000 personnes à nourrir. Et je me suis dit, je vais quand même réfléchir un petit peu plus. J'ai vérifié, il n'y avait pas d'assiette, de couvert, de couteau, de table, de nappe. Il n'y avait pas de serviteur. Il y avait les disciples. Avec 2 poissons, 5 pains et 5000 gars à nourrir. Il fallait qu'ils prennent dans des paniers à manger, qu'ils distribuent avec leurs mains. Et après, il faut qu'il récupère le truc. Et Dieu, Jésus dit, je veux que tu récupères tout. Premier point, il faut une sacrée dose d'obéissance pour ne pas avoir peur de nourrir 5000 personnes quand en plus tu sais que tu n'as pas la bouffe. Déjà, tu sais, tu te dis, je suis en mode, écoutez bien, chaque détail pour vous serait prophétique. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, tu as un petit gars qui amène son McDonald's, son Happy Meal, mais qui déjà me montre un signe d'une extrême générosité parce qu'il vient tout seul avec 5 pains, 2 poissons, c'est trop pour lui. Donc déjà, quelqu'un débarque avec plus qu'il n'en faut pour lui-même. Mais qu'est-ce que c'est devant 5000 personnes? Et là, les disciples se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que 200 deniers signifie 200 jours de salaire. Même 200 jours de salaire ne suffiraient pas pour nourrir une foule. Soyons honnêtes ce soir. Combien d'entre vous, d'entre nous, seraient comme Philippe en se disant, là, on est dans une grosse galère. Leclerc est fermé. Je veux dire, même si c'était ouvert, moi je pense que le gars a dû se dire, heureusement que c'est fermé. T'imagines s'il fallait qu'on paye la bouffe pour tout le monde? Non mais comprenez bien, c'est ce qui se passe là. Il se dit, hey, on n'a pas 200 deniers pour tout le monde. T'imagines, heureusement que c'est loin. Oh Seigneur, désolé, c'est trop loin. Renvoie les gars chez eux. Et Jésus dit, non, je veux qu'on les nourrisse, je veux que vous les nourrissiez. Et le petit gars débarque avec 2 pains, 5 poissons et le frère qui dit, tu sais, on a ça, mais bon, ça ne sert à rien. Et là, Jésus dit, faites-les asseoir. Okay, faites-les asseoir. Que c'est l'histoire. Et là, Jésus dit, vous leur donnez à manger. Moi, j'imagine la tête des disciples avec les paniers de poissons et de pain aller nourrir 1, 2, 3, 4, 3954, 4900. Et ils regardent le panier, rien qui bouge. C'est quoi ce truc de fou, là, tu sais? Et les gars ont refaim, ils recommencent 1, 2, tu vois, parce que je pense qu'ils étaient plus fins. Quand ils ont plus faim, ramassez le reste et ramassent des paniers entiers. Alors, au début du repas, tu as 14 personnes pour 2 poissons, 5 pains. D'accord avec moi? 14. Jésus, 12 disciples et le petit garçon. Comme le compter dedans quand même, parce que c'est quand même sa bouffe quoi, qu'il emmène. Quand même. Juste, tu sais, tout le monde dit le petit garçon. On pense qu'il y a avec mille côtés, lui, il est là. Et moi, les gars? Et moi, j'imagine les 14 comme ça, et j'imagine Pierre, Jean, tout ça, et le petit garçon qui dit, bon, là, on est 14, fou, avec 2 poissons, 5 pains, on coupe en 14. Si tu manges avec des copains à moi, à l'église, dont je vais taire le nom, 2 poissons ne suffisent pas pour le gars. Tu es tout seul, déjà, tu te dis, on est 14. Mais vous savez, je vais en venir, et on est 14. Seigneur, l'église n'a pas les ressources. L'église n'a pas les ressources, on ne peut pas, on est 14 et on n'a que 2 poissons, 5 pains, on ne peut pas nourrir la ville de Montpellier. Qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là et celle-ci et lui, et c'est pas assez, il faut... Et là on commet une erreur colossale, parfois on commet l'erreur suivante, on va demander à Dieu d'importer quand tout est déjà avec nous. Écoutez bien, église clé. La prière que vous devez faire en ce moment n'est pas de dire à Dieu, amène-nous des gens. La vraie prière que vous devriez faire ce soir, c'est de dire à Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie ce que j'ai déjà. Parce que le miracle que Dieu va faire avec vous ne sera jamais un miracle importé. Ce ne sera pas un miracle importé. Écoutez-moi bien, ce soir mes paroles vont avoir un peu de poids, et dans un an, un peu plus de poids, et dans 10 ans, beaucoup de poids. Et moi j'ai appris en tant que prophète à passer pour un menteur pendant des mois. Parce qu'un prophète passe toujours pour un menteur jusqu'à ce que ce qu'il dise arrive. Vous n'imaginez pas le nombre d'emails que je reçois, pardon, pardon d'avoir douté de toi. Il y a 3 ans, j'ai pas d'enfant, t'as dit j'aurais un enfant, j'ai attendu 3 ans, et tout d'un coup j'ai 2 enfants, pardon. Mais oui. Et là Jésus a vu le futur, il sait très bien qu'il va nourrir cette foule. Les disciples ne voient pas le futur que Jésus voit. Et là, j'ai commencé à réfléchir sérieusement sur ce passage depuis des mois. J'ai dit, non, mais pourquoi, comment ça se fait que Jésus ait une telle autorité et une telle onction? Vous connaissez l'histoire, il a pris le pain, il a pris les poissons, il a rompu le pain, il a brisé le pain, il a brisé les poissons, si vous préférez. Et c'est comme si Dieu nous dit, une fois que tu me donnes ce que tu me donnes, j'en fais ce que je veux. Vous savez, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on donne à Dieu ce condition. Je sais pas si j'ai vu des gens comme ça. Des gens qui te donnent un cadeau, mais ils vont scruter le cadeau pendant des années. T'as pas intérêt de donner le cadeau. Hein. En fait, c'est ton cadeau, mais c'est pas le tien, quoi. J'ai déjà vécu ça. Tu te donnes un truc, hein, mais c'est toujours à lui. Mais c'est à toi. mais tu fais ce qu'il veut avec. Là, Dieu dit, si tu me donnes quelque chose ce soir, si tu me donnes ton temps, tes offrandes, tes finances, ta vie, ta famille, tes talents, tout ce que je vais en faire, c'est moi qui décide. Écoutez-moi, c'est moi qui décide. Okay? Et là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui fait que tu aies une telle autorité, une telle onction pour que ce moment précis-là, tu aies l'onction de multiplication. Et ce soir, j'aimerais vous partager en quelques minutes une onction extrêmement importante que je vais vous demander au Saint-Esprit, comme il me l'a promis, de libérer sur vos vies ce soir. Si j'étais vous, je prendrais des notes de quelques mots clés, j'écouterais attentivement, je resterais extrêmement focalisé, pas sur moi, sur ce que Dieu va vous dire, que vos oreilles entendent sa voix et pas la mienne. Parce que Dieu veut ce soir libérer une onction particulière qui s'appelle l'onction du premier-né. Et si les enfants peuvent un peu moins de bruit, c'est génial. L'onction du premier-né. Tout le monde dit premier-né. Christ manifeste ici une onction que tout le monde peut avoir. Combien ce soir vous êtes d'accord pour me dire, vous êtes chrétien, vous êtes en Christ, vous aimez Jésus, vous êtes en Christ, et vous avez compris que Dieu veut déverser sur votre vie une vie abondante, Zoé en grec, une vie extraordinaire, une vie... Okay, qui est conscient que Dieu veut vraiment faire ça? Ok. Qui vit ça? Réellement, abondante. T'en as tellement que tu donnes tellement trop. Qui a trop? Trop de fric. Qui a trop de joie? Qui a trop de paix? Qui a trop d'autorité? Tu vois, j'ai trop d'autorité, j'arrête, j'ai trop d'autorité. On connaît, donc, on a un conseil, on se dit, ben oui, moi, je... Mais en fin de compte, est-ce que tu vis vraiment ce que tu crois vivre? Ok, donc c'est pas un jugement, c'est pour nous provoquer dans l'amour en disant, hey, il y a un truc qui va se passer. Donc, Dieu veut qu'on ait la vie en abondance. Il veut qu'on ait cette abondance dans notre vie qui permette aux gens d'être touchés par ce que Dieu fait. Écoutez-moi bien. Je vais donner quelques paramètres, quelques vérités spirituelles qui vont vous aider à avoir des paramètres dans votre vie. Quand tu donnes, que ce soit de l'argent, du temps, de l'amour, peu importe, quand tu donnes, Dieu gagne, la personne qui reçoit gagne et tu gagnes dans le royaume. Quand tu ne donnes pas, le diable gagne. Je suis désolé de vous dire, mais quand tu ne donnes pas, Dieu ne gagne pas. Il est vainqueur, mais prenez l'idée, il ne gagne pas dans ta vie pour toi, il peut pas agir pour toi, tu ne donnes pas. Personne ne gagne, sauf le diable. Donc là, tu as un homme de Dieu qui s'appelle Jésus, qui est Dieu lui-même, 100% Dieu, 100% homme, qui voit 5000 personnes, qui scanne les gens et qui dit, ok, Dieu va agir, qui est prêt à agir, qui est prêt à prendre ce qu'il a sous la main, ce qu'on lui donne, pour multiplier. Ma question est la suivante. Combien d'entre vous aujourd'hui, vous aimeriez avoir ce genre d'onction où avec très peu, vous bénissez des milliers de gens? C'est pas une fausse promesse, là. Hein. Je suis pas un médium voyant, gourou, kangourou, tout ça. Hein. Là, c'est la parole de Dieu, là, ok? Parce que souvent, quand Dieu nous dit une promesse, c'est tellement grand qu'on dit non, ça ne peut pas être vrai. Okay, combien d'entre vous avez appris que pour frapper avec un bâton la mer rouge et que la mer rouge s'ouvre, il faut vraiment avoir un grain. Je veux dire, au niveau humain. Parfois, on lisait, on dit Moïse, c'est Moïse. Et même, les gars, Moïse, il fallait y aller. Hein. Un jour, un prof m'a dit, ouais, les chrétiens, ils disent n'importe quoi. À l'époque, j'étais catholique. Les chrétiens, ils disent n'importe quoi. Il paraît que leur Dieu a ouvert la mer rouge, mais c'était prouvé par la science qu'à l'époque du peuple d'Israël, la mer rouge n'avait que ça d'eau, il y avait 15 cm d'eau, et que les gens ont marché les pieds dans l'eau. Et c'est assez faux. Je fais, monsieur, pardon. Je dis quoi encore? Je dis, même si vous avez raison, ça veut dire que mon Dieu a quand même fait un miracle parce qu'il a coulé une armée entière dans sa dos. Dans les deux cas, il gagne le gars, tu vois. J'ai été au piqué pendant une heure. Donc, c'est histoire vraie. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous comprenez que dans le royaume de Dieu, Dieu veut oindre son peuple pour qu'il y ait une abondance, et ne faites pas l'allusion cofinance, mais une abondance pour que des milliers de gens soient touchés? Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu n'a pas besoin de l'abondance pour créer l'abondance. Dieu a besoin de l'obéissance pour créer l'abondance. Dieu n'a pas besoin de l'abondance pour créer une abondance. Dieu a besoin d'une semence pour l'abondance. Dieu n'a pas besoin de commander 5000 Happy Meal pour 5000 hommes. Il a besoin d'un petit gars qui emmène 2 poissons, 5 pains et bam, 5000 personnes sont nourries. Moi, ça m'inspire. Quand tu donnes à Dieu, tu donnes le droit à Dieu de multiplier ce que tu donnes. Dieu ne multiplie pas ce que tu gardes, il multiplie ce que tu donnes. Est-ce que vous savez que dans une pomme, vous pouvez compter le nombre de pépins qu'il y a dans la pomme ? Oui ou non ? Mais tu ne peux pas compter le nombre de pommes qu'il y a dans un pépin. Tu peux te dire, ok, là j'ai une pomme, il reste 5 pépins, comment je vais faire? Mais tu peux pas savoir comment tu plantes un pépin dans le sol, tu peux pas savoir comment, dans un an, 10 ans, il y aura 14 000, 000 arbres de pommes, des pommiers, ouais. Des pommes, des troncs de pommes. Tu vois, je veux dire, et ça c'est le problème du chrétien, c'est que nous, on pense que pour nourrir 5 000 personnes, il faut 5 000 repas. Et Dieu dit non, pour nourrir 5 000 personnes, il faut un homme avec un cœur droit. Un homme qui a la foi. Un homme qui emmène ce qu'il a. Un homme qui a une semence. Imagine la puissance qu'il y a ce soir avec une église remplie d'hommes et de femmes comme ce petit garçon-là. Et je vous rappelle, c'est prophétique, parce que dans quelques mois, vous allez être face à des impossibilités que Dieu a planifiées. Ce genre d'impossibilité que tu vas te dire, mais comment est-ce qu'on va faire? Et là, Dieu dit, enfin, je peux récupérer ta semence. Merci pour le amen. Non, il y en a au moins un. Écoutez-moi bien. Hyper important. Qui ce soir, entre vous, vous me dites, Bruno, je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Ok, c'est déjà une bonne nouvelle. On va lire ensemble Deutéronome 21, s'il vous plaît. Je parle ce soir de l'onction du premier-né. Je vous montrerai ce soir pourquoi et comment est-ce que Jésus-Christ a une telle autorité pour manifester à un moment donné, avec 2 pains, avec 2 poissons et 5 pains, il a eu l'autorité de prier, de rendre grâce à Dieu, et ces 2 poissons et ces 5 pains ont nourri 5000 personnes, et en plus, il a ramené plus de bouffe et de repas qu'au départ. Je veux dire, avant de prendre le verset, il y a 2 poissons, 5 pains. 5000 personnes sont nourries, ils n'ont plus faim du tout, et les disciples récupèrent pour chacun un panier entier. Et en plus, j'ai vérifié, je vous promets, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Donc quand le gars rentre chez lui, Pierre rentre chez lui avec sa femme, d'où tu sors avec Jésus? T'as un gros panier de pain? Ouais. T'as acheté ça où? J'ai pas acheté. Comment tu l'as eu? Après avoir nourri 5000 personnes. Tout seul ? Ouais, avec un petit garçon et 2 pains, 2 poissons, 5 pains. Et là, tu es obligé de dire, tu rentres chez toi et tu es encore obligé de partager. Écoutez-moi bien, après avoir donné au royaume de Dieu ce que tu crois avoir perdu, tu le retrouves avec plus qu'il n'en faut et que tu es obligé encore de partager. Mais nous, on préfère les maths françaises. 5000 personnes, Jésus, 5000 personnes, 2 poissons, 5 pains, 5000 personnes, on est mort. Jésus dit, non, donne-moi les 2 poissons et 5 pains. Jésus, sans t'offenser, je te donne les 2 poissons, 5 pains. J'ai encore moins crié. Hein. En plus, moi, ce qui me choque le plus, c'est que les gars ne prennent pas leurs poissons et leurs pains, ils prennent les poissons et les pains du petit garçon. Il faut comprendre comment ça bouge là, tu sais. Nous on dit ça comme ça, mais le roi de l'univers, Jésus-Christ, est là et il regarde toute la scène. Et ses disciples sont à côté de la plaque. Ses disciples vont piquer, littéralement prendre, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dit. Je vous donne, je suis content, je suis heureux. Dis-toi, t'es là, allez, viens, c'est Dieu. Dieu t'a amené là, t'es un plan de Dieu, oh, viens ici, hop. Petit garçon, plus de poisson, plus de pain, c'est plus ce qui se passe. Et en plus, moi, ce qui me choque le plus, et je ne dis pas ça pour manquer de respect, je vous montre comment Dieu réagit, il n'a pas écrit après, et les 12 disciples ont eu chacun un panier, et le petit garçon est reparti avec un panier. Je veux dire, c'est pas écrit en tout cas. Votre tête me fait rire. Moi, j'aurais aimé avoir des caméras sur vos visages et filmer ici comme ça. Je veux dire que, moi, c'est, et je dis, non, mais où est sa récompense? Et c'est là où Dieu me fracasse. Il me dit, mais la récompense du petit garçon, c'est que déjà, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Mais en plus, sa récompense est éternelle. Ok, on me dit, ouais, mais je vous garantis que bien souvent, nous, on sème pour récolter aujourd'hui. Laissez-moi vous donner une vérité que tu ne peux jamais la combattre. La récolte éternelle sera toujours plus grande que la récolte terrestre. Mais tu peux perdre ta récolte éternelle si tu fais tout ce que tu peux pour récupérer la récolte terrestre. Ouh, c'est silencieux ce soir. Ça va tout le monde? Bonsoir. Mon nom est Brian. Je suis in the kitchen. Franchement, réfléchis à ça. Tous les détails de Dieu sont importants. Le petit garçon, là, on ne parle pas de lui. On parle une fois, il est venu, il a donné, il est reparti. Je n'ai même pas sa photo sur Google. Non, mais je veux dire, c'est important de comprendre ça. Combien de fois on donne, mais on veut que tout le monde comprenne qu'on a donné, c'est moi le petit garçon. Et Dieu, lui, est en train de dire, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on a nourri le peuple de Dieu, tout le monde apprend, et que des années plus tard, 2000 ans plus tard, on parle toujours du petit garçon, et le petit garçon nous enseigne ce soir une leçon. Ce qui fait que le petit garçon, maintenant, qui je suppose au ciel, est quand même en train de t'enseigner, même après sa mort. Et son impact est éternel. On ne parle pas vraiment de l'apôtre, je ne sais plus lequel, un des douze qui a emmené un panier. On parle des douze apôtres, mais on ne parle pas de lui. On parle du petit garçon. Une remarque importante, on n'a pas besoin de connaître ton nom pour que tu impactes l'éternité. Le petit garçon aujourd'hui, il s'appelle Bruno. Non, c'est pas le nom de Bruno. Il s'appelle Steve. Donc, essayez de comprendre la soirée. C'est vraiment important pour moi de vous le dire de tout mon cœur ce soir. Deutéronome 21, s'il vous plaît. 15, 17. Deutéronome 21 nous dit, Moïse dit, supposons ceci, un homme a deux femmes. Il aime une femme, mais il n'aime pas l'autre. Pourquoi t'as deux femmes alors? Réfléchis. Chaque femme, je veux dire Moïse, oh, chaque femme lui donne un fils. Écoutez bien, mais l'aîné est le fils de la femme qu'il n'aime pas. Entre termes, il a eu le premier fils avec la femme qu'il n'aime pas. Le jour où il va donner ses biens en partage à ses fils, il n'a pas le droit de donner la part de l'aîné au fils de sa femme préférée. Donc il y a l'aîné de la femme qu'il n'aime pas et l'aîné de la femme qu'il aime. Et le jour du partage, il n'a pas le droit de donner ses biens au fils de la femme qu'il aime. Vous me suivez ? Bon, déjà, c'est une leçon de superbe sagesse. Ne prends pas deux femmes. C'est la galère totale, déjà. Tu as besoin de dire, purée, laquelle j'aime plus, laquelle j'aime encore, laquelle, comme les films d'amour, là. Je t'aime plus si tu m'aimerais un jour. Je t'aime plus si tu m'aimerais un jour. Ça, c'est un titre de film, ça. Bon, c'est pas grave, c'est entre vous, ok. Il dit ici, le jour où il va donner ses biens en partage à ses fils, il n'a pas le droit de donner la part de l'aîné au fils de la femme préférée. Il ferait du tort à l'aîné qui a pour mère la femme qu'il n'aime pas. Au contraire, il doit reconnaître une chose, le fils de la femme qu'il n'aime pas est l'aîné. Dieu répète des phrases, c'est trop fort. Il doit lui donner une double part de tous ses biens. Tout le monde dit double part. Et il dit en effet, c'est lui qui est son premier enfant, il possède les droits du fils aîné. Tout le monde me suit ? Quel rapport avec Jésus ? Qui est d'accord soit pour dire que Jésus est le premier-né ? Vous me suivez ? Jésus est le premier-né, et en tant que premier-né, il a le droit d'avoir une double part de l'héritage, il a le droit d'avoir les droits d'aînesse. L'aîné reçoit une part extrêmement importante, le double de tous ceux qui l'entourent. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, français ou pas, oh c'est injuste, peu importe, c'est comme ça. Tout le monde me suit ? C'est hyper important. Tout le monde dit droit d'aînesse. Et je me suis dit, mais comment ça fonctionne ? Écoutez-moi bien, c'est hyper important. Quand Jésus récupère les deux poissons et les cinq pains et qu'il voit la foule de gens, ce n'est pas juste un hasard, ce n'est pas juste une chose qu'il va faire tranquillement. Il sait exactement qui il est, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et quand il prie, il y a une autorité et aucun doute parce qu'il sait qu'il est exactement dans ce que Dieu, le Père, veut qu'il fasse. Pourquoi, d'après vous, est-ce que le droit d'aînesse était si important? Pourquoi est-ce que l'aîné avait le droit d'avoir accès au double par rapport à tout le monde? Quelle idée? Parce que l'aîné était appelé à remplacer le père en son absence ou en cas de mort et à représenter le père. Écoutez-moi bien là, c'est vraiment important, il faut bien rester concentré. L'aîné, comme il avait le devoir et le droit, le devoir de représenter le père, il avait le droit d'avoir accès à une double portion. Pourquoi ? En l'absence du père, quand ses frères et sœurs avaient un problème, c'est vers lui qu'ils se tournaient. Si sa mère était attaquée, c'est vers lui qu'ils se tournaient. Si quelqu'un attaquait le foyer ou la maison, il ne venait pas parler au plus jeune frère, il venait parler au premier-né. Et qu'est-ce qui fait que le premier-né, écoutez bien ce qui va venir, c'est une bombe pour tout le monde. Si vous la prenez, elle peut changer votre vie. Qu'est-ce qui fait que très peu de chrétiens manifestent l'onction des premiers-nés, qui est l'onction de la multiplication, qui est l'onction d'avoir le droit de taper dans une atmosphère d'abondance. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune abondance. Ils galèrent tous les jours. Il n'y a pas de finances. Je parle de la vie en abondance. Oubliez les finances, c'est une partie intime, infime. Mais l'intimité avec Dieu, c'est que tu as une vie en abondance. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette vie-là. On suffoque. J'espère que demain, ça ira mieux. Tu verras, avec Jésus, c'est super fun. Enfin, sauf depuis 15 ans. Ok, c'est un peu méchant, mais c'est la vérité. Hein. Cécile, viens dans mon église, on verra ce qu'on pourra faire. Quoi ? Combien de chrétiens ce soir, sans lever la main, honnêtement, combien d'entre vous, si demain matin vous arrivez dans un lieu public, il y a 5000 hommes qui ont faim, et vous avez un McDo, et tu sens que Dieu te dit, donne-moi le McDo, je vais le multiplier. Tu dis, Seigneur, si tu veux reviens maintenant, c'est bien. Maintenant, reviens maintenant, reprends l'église maintenant, parce que c'est le moment où tu peux m'évacuer. On rigole, mais c'est pas juste une belle histoire, c'est extrêmement important. Le Père est en train de nous dire que son Fils manifestait une onction de multiplication parce qu'il avait compris qu'il était l'aîné et qu'il avait le droit d'aînesse parce que le Fils aîné représente le Père. Quand le Fils aîné Jésus a vu le peuple affamé, il l'a pas dit « Oh mince, ils ont faim ». Il a dit « Voici une opportunité de représenter mon Père ». Et mon père prend soin du peuple. Écoutez-moi bien ce soir. Qui veut savoir comment faire pour avoir accès à l'onction du premier-né ? Trois personnes. C'est bien, trois déjà, c'est bien. S'il n'y a pas de piège là, ok ? Il n'y a pas de... Donc, écoutez-moi bien. Hyper important. On va lire un passage que très peu de chrétiens connaissent, mais c'est hyper important. Je vais vous donner une révélation que vous ne connaissez peut-être pas. Qui est d'accord ce soir pour dire que Jésus est le premier-né ? Gardez la main levée si vous êtes d'accord pour dire que vous êtes aussi les premiers-nés. Êtes-vous un premier-né ? Tout le monde fait « je ne suis pas trop sûr là. Attends, je réfléchis. Lui, il pense quoi ?» On va lire ensemble Hébreux 12. La Bible est la référence, la Bible est le cadre, la Bible est le fondement, la fondation, la Bible. Hébreux 12, 22 nous dit, vous êtes prêts ? Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem du ciel où les millions d'anges sont en fête. Vous êtes rapprochés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont leur nom écrit dans les cieux. Ça veut dire quoi ? Que lorsque tu es chrétien, tu rejoins une famille spirituelle, ton nom est inscrit dans les cieux, dans le livre de vie, et tu fais partie des premiers-nés parce qu'en Christ, tu es un premier-né. Ça, c'est un truc de fou, les amis. Vous devriez crier ton nom, comme ça, faire ça, sauter, faire une galipe, je ne sais pas. Je viens vous libérer une bombe là. Le diable ne veut pas que tu apprennes ça. Écoutez-moi, les amis. Le diable, il est dans son intérêt que tu restes ignorant. Il est dans son intérêt que tu ne sois pas du tout généreux. Il est dans son intérêt que tu restes totalement brisé, pauvre, détruit par l'esprit de pauvreté. Mais il est dans l'intérêt de Dieu de bénir le généreux. Il est dans l'intérêt de Dieu de bénir le généreux. Et quand le généreux est généreux parce qu'il sait qu'il est, je suis un premier-né, je représente mon père, tu peux venir me voir quand tu veux, je m'occuperai de toi, n'aie pas peur, je suis un premier-né. Un premier-né qui prie comme ça à l'autorité. C'est pas, s'il te plaît, Jésus, petit McDo. Petit McDo, tout petit McDo. Un McDonou. Je comprends, c'est... Mais toi, tu viens, tu te lèves le matin. Écoutez bien, tu te lèves le matin. Tu vois 25 000 Montpelliérains affamés. Dans l'esprit, je parle. Tu as deux options. Seigneur, renvoie-les chez eux. Ouais, ils sont chez eux. Seigneur, expulse-moi de là. Ou tu dis, Seigneur, je sais qui je suis. Je suis un premier-né. J'ai l'onction de mon Père. J'ai l'autorité, j'ai accès. J'ai accès à ce que mon Père possède. Écoutez-moi bien, mes amis. Le jour où tu comprends que tu n'es pas juste un enfant de Dieu, mais tu es aussi en Christ un premier-né, ta prière change. Ta façon de voir la foule change. Ta façon de voir le manque change. Tu ne regardes plus le manque. Tu ne dis plus j'ai pas assez. Tu dis j'ai juste assez. Pour la multiplication. Tu ne dis plus c'est fini, j'ai pas assez pour tout le monde. Tu dis oh, le juste assez dans les mains de Dieu devient plus que suffisant. Je sais que Dieu est en train de travailler nos cœurs ce soir et c'est super. Alors rapidement, comment marcher dans cette double onction? C'est bien beau de dire, on est premier-né, je comprends, je confesse, alléluia, je suis un premier-né, mais comment ça fonctionne concrètement? Qui veut savoir? Qui veut savoir comment ça fonctionne? Revenez dimanche prochain. Non, je ne serai pas là. Matthieu 14. C'est une autre histoire, mais la même chose, d'accord? La même histoire, mais un autre passage. Il dit ici, quand Jésus, verset 14, Matthieu 14, quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Encore une fois, il voit la foule. Jésus n'est pas en train de faire l'autruche. Il voit la foule, il voit les gens affamés, il voit les problèmes, il voit la France, il voit Montpellier, il voit les jeunes, il voit l'église, il voit tout ce qui ne va pas. Mais il y a un truc qui se passe en lui, qui devrait se passer en nous. Son cœur est rempli de compassion et de pitié. Il se dit, mon Père n'aimerait pas que mon peuple reste comme ça. Je suis le premier-né, je ne peux pas juste laisser ma ville en train d'être pourrie par n'importe quel homme politique qui sont loin de Dieu. Il faut absolument que je trouve une solution, que j'amène des gens, que je lève mes enfants à devenir des voix prophétiques dans la politique. Tu comprends? Tu commences à te dire, il y a une entreprise, il faut que je monte une boîte qui réussisse, il faut que je fasse de l'argent pour le royaume de Dieu. Il faut que je donne, je sème. Je suis pas, moi, chez nous, savez-moi, on suis où là? Tous les week-ends, on bombarde nos membres d'église, on leur dit, écoute mon ami, si tu es aux ascédiques, pendant quelques mois, pour te refaire une santé émotive, émotionnelle, spirituelle, ce que tu veux, je comprends. Mais si tu profites du système, tu ne resteras pas membre de l'église. Tu seras un visiteur assidu, mais pas un membre de la famille. Parce que les premiers-nés refusent le système. Ils soutiennent les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils prennent de l'Esprit de Dieu, ils prennent des ressources de Dieu, ils prennent de la créativité de Dieu, ils prennent des miracles de Dieu. Et là, ils comprennent que la France n'est pas la solution. Le royaume de Dieu est la solution. Il y a des chrétiens qui me disent en face, ils me disent en face, mais ils sont mal partis. Ils me disent, tu sais, moi, pasteur Bruno, j'ai fait un calcul. Je gagne beaucoup plus en restant chez moi à rien faire. Hop, jette ta tête dans ma main. Non, parce que j'ai pas le droit de frapper. Donc, tu vois, et ce qu'on fait avec Steph, c'est qu'on lui demande de courir. Steph fait un croche-pied. Lui, il tombe comme ça sur ma main. Et je fais, ah, t'as eu mal? Oh, pardon. Non, franchement, réfléchissez à ça. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas. Il y a un système, je comprends, vous avez cotisé, dadada, je comprends. Mais attention! Attention que le système t'empêche d'avoir ressources au miraculeux. C'est ça. Après, l'église se dit, mais je ne comprends pas, Dieu n'agit pas. C'est ton système, Joseph, Coco, Bertha, tante Joséphine. T'as bossé. Les gars font des calculs, les gars bossent. Je bosse 6 mois, j'ai un an acidique, c'est cool. Comment ça, c'est cool? Tu rigoles ou quoi? Crée des emplois, crée des richesses, emmène tes poissons. Dis Dieu, voilà ce que j'ai. J'ai un talent, j'ai une voix, j'ai un cœur, j'ai un truc. Je sais faire un plat. Et amène ça. Et dis Seigneur, vas-y, multiplie ça. Parce que Dieu ne multiplie pas ce que tu as volé. Attends, on va être très très vrai. Je suis extrêmement pour un aspect social. Steve me connaît, on se bat pour que les riches qui font beaucoup d'argent aident les plus pauvres. Mais je suis contre le fait qu'on choisisse de faire semblant de rester pauvre. Profiter d'un système financier et ne jamais amener le miraculeux dans nos vies. Dieu n'a pas besoin de l'abondance pour créer l'abondance, il a besoin de l'obéissance avec une semence. Et nous, on se prive de semences. Écoutez-moi bien, les amis, c'est très important, j'ai pas beaucoup de temps, mais vous virez moi quand vous en avez marre, d'accord? Je suis prêt à partir quand vous voulez, vous me virez. Mais je veux déverser mon cœur ce soir, je veux vous faire réagir, parce que dans les prochaines semaines et prochains mois, ce message aura un poids dans vos vies. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas, et je veux blesser personne, d'accord? Je suis pas en train de dire qu'il faut dire non au système tout de suite, je suis en train de dire qu'il ne faut pas profiter du système. Au bout d'une saison, trouve-toi quelque chose à faire. Ah, mais je gagnerai moins. Ah, tu travailles pour de l'argent? Ou tu travailles pour montrer qui ton père est? Ouh. Écoutez-moi bien, il dit ici, son cœur a eu pitié pour lui et pour le peuple, et il guérit les malades. Et le soir arrivé, tout ça, il parle la même chose. Il dit, Seigneur, les gars ont faim. Il dit, amenez-leur à manger, donnez-leur à manger, apportez-moi le pain et les poissons que vous avez. Il commande à la foule encore de s'asseoir, verset 19. Il prend les 5 pains et 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel, il fait une prière de bénédiction, il partage le pain aux disciples, il dit aux disciples, vous allez devant la foule. Et là, je me dis, tu vois, encore une fois, qu'est-ce qui fait, quel est le lien là? Qu'est-ce qui fait que le premier-né, parce que c'est bien bon de savoir que tu as un premier-né, mais qu'est-ce qui fait que le premier-né ici, Jésus-Christ, manifeste l'onction du premier-né? Ce soir, tout le monde est arrivé, je pense, à ce moment-là, au stade précis, tout le monde est d'accord pour dire que nous sommes des premiers-nés. Okay, la Bible le dit, tu es en Jésus-Christ, tu es en Jésus-Christ, tu es le premier-né, tu as rejoint l'assemblée des premiers-nés, tu es un premier-né. Tout le monde est d'accord? Mais combien vont manifester l'onction du premier-né? Voici la clé. Vous êtes prêts? Voici la clé. Il y a un message très très simple. Une clé. Message très simple. Une clé. Jésus a pris ses responsabilités. Il n'a pas dit, ce n'est pas mon peuple. Il n'a pas dit, je n'ai rien à faire avec eux. Il n'a pas dit, ils sont trop nombreux. Il a dit, je suis le premier-né ici, c'est mon peuple, on les nourrit. Il n'a pas dit, on peut y avoir des galères, c'est à cause des politiques, c'est à cause des lois, c'est à cause des policiers, c'est à cause d'un manque de policiers, c'est à cause des satanistes, c'est à cause des francs-maçonnistes. On dit pas ça, on dit francs-maçons, je ne sais plus. C'est à cause de. Et t'es là, et il dit pas ça, il dit, hey, c'est nous les premiers-nés. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas demander l'onction du premier-né si tu ne marches pas dans la responsabilité du premier-né. Tu ne peux pas juste dire, Seigneur, je veux l'onction de multiplication, si tu n'arrives même pas à te dire, Seigneur, je vais prendre la responsabilité de ce peuple. Et quand Dieu voit un homme ou une femme responsable qui est généreux, il est dans l'intérêt de Dieu de bénir les généreux. Parce qu'il se dit, tu sais quoi, que je leur file 2 poissons, 5 pains, ou que je leur file 3 grands steaks, ou que je leur file un steak de Kobe, je leur file 100 euros ou 2 millions d'euros, je ne sais pas. Dieu dit, peu importe ce que je lui donne à lui, avec lui, tout le temps c'est distribué. Il est de mon intérêt, dit Dieu, de bénir celui qui bénit. J'arrose celui qui arrose. J'arrose l'église qui arrose. À Extravagance, on essaye sincèrement, on essaye, on dit pas, on ne fait pas des grandes campagnes de pub, on essaye sincèrement d'être une église de premier-né. Quand une église a un problème, même celles qui nous ont critiqués grave, on leur file 200 chaises. On a des besoins. On a aussi des besoins. Un invité passe, on fait une offrande, l'invité reçoit une offrande de ouf. Mais de ouf! On dit, mais ça aurait été quand même super cool pour nous. On dit non, Seigneur, c'est quoi? On te fait confiance, vas-y, prends, Seigneur, c'est bon, vas-y, va à fond. Je n'ai pas ça pour moi ce soir, ok, relax. Hein. Parce que quand on est invité, je me suis dit, tiens, je suis machin invité. Mais dans l'église extravagance, on a ça, le cœur de premier-né. Regarde ton voisin, dis, tu es un premier-né. Dis-lui, tu es un premier-né. Les jeunes à l'école, vous êtes des premiers-nés. Vous savez, bientôt, vous allez voir Jérémie et Samuel. Jérémie et Samuel se comportent comme des premiers-nés. Ces gars-là sont dangereux. Ils ont leur groupe de jeunes fait 454 jeunes en ce moment. Et je me rappelle très bien que j'ai commencé à pleurer dans une petite salle. Ils étaient 30, 40 personnes. Et ça a grandi parce qu'ils ont pris la responsabilité. Si vous lisez leur mission, leur vocation, leur désir, ils disent pas nous, un petit groupe de jeunes super fun de la louange. Ils disent nous voulons envahir les collèges, nous voulons envahir les lycées, nous voulons prêcher ceci, la pureté, la créativité, nous voulons avoir... Et les gars ont écrit des musiques de fous. Je me dis, mais parce qu'ils se sont dit nous voulons être responsables de notre génération. Les gars n'ont pas à manger, c'est nous qui allons les nourrir. C'est moi qui les nourris, Seigneur. Amène-moi le maximum de gars qui n'ont pas à manger. Dans l'esprit, dans les finances, dans le social, peu importe. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à dire, Seigneur, amène-moi les 25 000 personnes qui n'ont rien. Oui, vous êtes 12. Prends tes responsabilités. Je finis rapidement dans quelques minutes et heures. Trop de chrétiens me disent, Bruno, j'aime Jésus. Et ils prennent l'église comme une cafétéria. Il y a des chrétiens qui sont des vagabonds spirituels professionnels. Ils vont d'église en église, ils se servent un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici. Une parenthèse extrêmement importante, écoutez bien s'il vous plaît. Écoutez bien mes amis. Une parenthèse qui n'a pas, c'est pas, mais je veux le dire quand même. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils arrivent à l'église le dimanche ou le samedi, ne sont plus nourris par leur pasteur. Ce n'est pas à cause du pasteur. Parce qu'ils arrivent le ventre plein. Ils ont écouté Joyce Meyer. Et c'est super. Ils ont écouté le Top Chrétien. Ils ont écouté Steve River. Ils ont écouté Brian Pickard. Ils ont écouté Luke Dumont. Ils ont écouté plein de gars. Et quand ils arrivent à l'église, ils sont saturés de la parole. Leur éponge est saturée. Ils n'ont plus faim du tout. Le pasteur prêche ses tripes et dit « Ouais, pff, ouais. » C'est vrai que tu ne comprends pas une chose. Dieu a chargé ou a placé dans le cœur de ton berger la nourriture dont tu as vraiment besoin. Et toi, tu passes par plein d'autres gars qui te nourrissent et ce n'est pas un mal. Et si ce n'est pas équilibré, ce qui se passe en ce moment, on n'a plus une église locale qui est une famille, on a des électrons libres qui se réunissent le dimanche. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas écouter. Il faut écouter, mais il faut bien équilibrer. Manger souvent à la maison. Et vous aurez le parfum de la maison. Et vous aurez le fardeau de la maison. Et vous aurez l'amour de la maison. Et vous aurez le cœur pour la maison. Et tout d'un coup, Dieu va dire, eux, on peut leur faire confiance parce qu'ils aiment leur maison. Avez-vous déjà placé vos enfants dans une garderie? 3 personnes. Dans quel monde je suis, moi? Qui a déjà fait ça? Ok, quand vous arrivez dans la garderie, est-ce que vous avez le regard aiguisé pour savoir si les gens sont gentils, s'ils sont sympas, si c'est propre, si c'est clean, si c'est une bonne atmosphère ou pas? Aidez-moi. Si tu arrives comme ça et tu vois que la maîtresse prend le bras d'un petit garçon, viens ici, toi, viens ici, tu fais, non, ben, mon enfant n'ira pas chez vous, j'ai un autre rendez-vous. Dieu fait exactement la même chose. Si vous et moi, on va scruter une garderie avant de mettre notre enfant, Dieu va scruter une église avant d'emmener des nouveaux. Elle va se dire, mais là, il va dire à ses anges, hé, les anges, tu vois, Clélin, il y a de l'amour, il y a une harmonie, il y a une unité. Les gars sont avec leur pasteur et leur pastrice, ils sont à fond. Ils sont à fond en famille. Quand ils viennent à l'église, il y a une famille. Et tu sais quoi, les anges, écoutez ça, ils sont en train de percer le monde de l'esprit, ils sont en train de saturer l'atmosphère. Et les anges, écoutez, regardez ça, ils sont en train de vouloir impacter, ils veulent Montpellier, ils veulent leur quartier, ils veulent leur ville, ils aiment leur maire, ils aiment leur président, ils sont là. Ces gars-là, on peut leur confier un paquet de trucs. Envoyez-leur 100 nouveaux par mois. Pour commencer. Mais nous, on n'aime pas ça. Nous, on veut des chrétiens matures, riches, qui chantent bien, qui sont loin, qui sont forts, doués en délivrance, qui débarquent tout de suite au premier jour, c'est bon, je suis prêt, je fais où, je fais quoi. Non, on ne veut pas des petits bébés qui arrivent et qui font, excusez-moi, qui font que. Et qu'il faut changer les couches. Et que ça pue pas bon. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? Les gars débarquent et le gars, il est là, il vient avec sa bière dans l'église, tu fais, oh, attends, pas de bière. Ouais, c'est super, Jésus m'aime, boum, tu sais, t'es là. La fille débarque, prostituée, elle a pas une robe, elle a une ceinture. Tellement c'est court. Et tous les gars sont là, tous les gars disent, Seigneur Jésus, je t'aime, alléluia, Saint le Seigneur. Et la femme fait, tu la regardes, tu la regardes, je te claque. Non, chérie, je la regarde pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu ses jambes, chérie. Quoi, t'as pas vu ses jambes? Non, j'ai vu ses jambes, j'ai pas vu. Bon, on rigole, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Dieu ne va pas nous emmener des gars stéréotypés, super parfaits, tout des canons. Quand les gars étaient les 5000, là, je vous garantis qu'il y avait des gars qui avaient vraiment faim. Il y avait des petits, des grands, des gros, des mecs, il y avait tout. Non, mais essayez de voir ça en face de vous, parce que Dieu va vous confier des gens en fonction de votre cœur extrêmement large qui est responsable du peuple autour de vous. Vous savez, les gens prient pour avoir plus d'argent. C'est pas la prière qu'il faut. Seigneur, vas-y, envoie-moi. Tout le reste, c'est lui. Si tu es pro la vision, tu auras la provision. Si tu as la vision claire et précise pour toi, si tu sais que tu es exactement devant la montagne, devant la foule que tu as à nourrir, tu n'as pas besoin de faire 10 000 heures de prière. Seigneur Jésus, ils sont 5 000, tu sais quoi faire. Ouais, je sais quoi faire, j'ai déjà vu plusieurs fois. Vas-y, refais-le, Seigneur, point. Mais nous, ce qu'on fait, avant de vouloir nourrir 5 000 personnes, on va aller voir les banques. Je suis pas contre, hein, mais les banques. On va aller voir les gars, on va faire devant le peuple, peuple de Dieu. Si vous payez pas, je vais en prison. Un gars qui dit, ok, pasteur, tu aimes quoi, les oranges, les bananes, pour qu'on sache, hein, parce qu'on paiera pas. Hein. Le pasteur, Jésus. Et vous savez, on lit ça comme ça. Moi, je lis gentil, je me dis, ouais, mais quand je lis gentil, je suis provoqué jusqu'au fond de mes tripes. Je me dis, Seigneur, mais c'est quoi le problème? Là, Jésus va dire un truc qui est très, très, très puissant. Dans Matthieu 16, vous êtes prêts? J'ai presque fini. Matthieu 16, verset 5. C'est le même contexte, hein. Jésus parle à ses disciples, ils viennent de vivre un côté de fou, hein. Ils ont multiplié les pains, les poissons, ils ont pris des paniers, ils sont super heureux, la vie est belle, Jésus a béni l'église, wouh, on est blindés, c'est super. Jésus leur dit, les disciples passent de l'autre côté du lac et ils ont oublié de prendre du pain. Les gars sont trop forts. Jésus leur dit, faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Là, les disciples qui sont vraiment pas comme nous. Ils disent, mince, on n'a pas pris de pain. Jésus sait qu'ils pensent cela et leur dit, vous n'avez pas beaucoup de foi. Hein. Pourquoi ce que vous pensez, nous n'avons pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Écoutez bien, souvenez-vous des 5 pains pour les 5000 hommes. Ce jour-là, vous avez emporté combien de paniers? 7. 12. Non, 7. Souvenez-vous des 7 pains pour les 4000. Ce jour-là, vous avez emporté combien de paniers? Et les gars calculent, ben lui 12, là 7, c'est vrai, on a eu plus qu'il en faut. À chaque fois, ils ont eu plus qu'il en faut. Après, oui ou non? Oui ou non? Et il dit, je vous le dis, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Vous ne comprenez donc pas que je ne vous parle pas de pain? Alors les disciples comprennent, Jésus ne leur a pas dit de se méfier du levain du pain. Mais ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Là, beaucoup de gens lisent ça et disent « Ok, c'est cool, je fais gaffe. » Mais c'est quoi l'enseignement des pharisiens? Qu'est-ce qui empêche un premier-né de manifester l'onction du premier-né qui se traduit par la multiplication de l'obéissance qui apporte une semence? Vous avez compris là? C'est bon? Il dit ici, au verset 13, « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Quel est le problème des pharisiens? Pourquoi est-ce que Dieu dit, vous fermez la porte au royaume, vous fermez la porte à la manifestation de mon règne, vous fermez la porte au miraculeux, vous fermez la porte au surnaturel, vous fermez la porte... Pourquoi ils font ça? Vous savez pourquoi? Le levain des pharisiens, c'est l'égoïsme. Ils ferment la porte parce qu'ils veulent que les choses soient que pour eux. Ça parle d'une église locale qui pense qu'à elle. Mes champs, mon pasteur, mon église, mes chaises, ma place de parking, ma dîme, mon argent, mon rendez-vous pastoral. Et c'est bien pour quelques mois. Ça, c'est un langage de bébé de l'esprit. Ça, c'est un bébé, c'est normal qu'il parle comme ça. Mais quand tu grandis, tu ne penses pas à mon église, ma place, mon pasteur. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois servir? Tu ne viens pas pour recevoir, tu viens pour bâtir. Quand l'église de Christ va venir le dimanche matin pour arrêter de recevoir, mais quand tout le monde dit, Seigneur, je viens pour bâtir, imagine le pasteur, qui a besoin de prière? Non. Besoin de prière? Non. Qui veut prier? La différence est énorme. Hein, c'est plus je viens parce qu'il faut... Et je ne sais pas, compte qu'on prie pour vous, bien sûr qu'il faut qu'on veut le faire. Mais quand vous commencez à dire, mais c'est moi qui prie. C'est moi le premier-né ou la première-née. Il dit ici, revenir à Matthieu 14, quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Matthieu 18, 11, car le Fils de l'homme est venu pour sauver les autres. Matthieu 20, 34, ému de compassion, ému de compassion. Luc 19, Jésus, voyant la ville, pleura sur elle. Alors ce soir, j'aimerais vous dire que si vous pouvez avoir quelqu'un qui est au piano qui joue doux pour moi si possible, piano avec des nappes, merci beaucoup. Et ce soir, je vais vous dire, si vous comprenez ce message très très simple, vous pouvez entrer maintenant, ce soir, maintenant dans une onction particulière, parce qu'elle est déjà là. C'est pas moi qui la crée, c'est pas moi qui la génère, c'est pas moi qui... Pas trop fort, d'accord? Merci. C'est pas moi qui la génère, c'est pas moi qui la crée, c'est Dieu qui vous la donne parce que vous êtes d'ores et déjà des premiers-nés. Mais pour activer cette onction, il faut que vous acceptiez de prendre vos responsabilités. Quand quelqu'un vient vous voir, ne fuyez pas son problème, devenez la solution. Et ça commence par semer dans l'église, bien sûr. Bien sûr, ton temps, ton travail, ton idée de finance, ton onction, ça, tu commences par là pour apprendre à fonctionner. Et après, Dieu dit, voici l'onction, je te donne l'onction pour ton entreprise. Ta famille. Quelle différence il y a, et je vais conclure avec ça, mais quelle différence il y a entre le pain et la semence? Parce que beaucoup de chrétiens sèment leur pain et mangent la semence. Après ils disent, on n'a plus rien à manger, on va mourir. Quelle différence il y a, de quoi est fait le pain? En général, de blé. Et la semence de blé, tu dois la travailler, tu dois en faire du pain. Quelle différence dans l'esprit il y a entre la semence et le pain? Qui veut savoir ce soir rapidement? C'est une très profonde, pour moi, révélation, pour moi. Ça m'a sauvé la vie. Le pain, c'est la semence que tu n'as pas semée au bon moment. Quand quelqu'un a une semence de blé, au lieu de semer dans son royaume, de Dieu, pour pouvoir avoir la multiplication, pour que Dieu puisse dire, ok, c'est bon, moi je vois mon fils là, c'est bon, il est à fond avec moi, je m'occupe du reste. Nous, on fait pas ça. On va travailler le blé pour faire notre pain. Et là, notre pain, on se dit, j'ai mon pain maintenant, et maintenant, il faut que je sème. Et tu sèmes une miche de pain, tu gagnes rien. La Bible dit même, jette ton pain à la surface des eaux, tu récupères ton pain mouillé. Mais tu nourris personne. Il faut apprendre à discerner qu'est-ce qui appartient à la semence et qu'est-ce qui appartient au pain. Quelle partie du blé dois-je utiliser pour faire mon pain, ce qui est normal, logique, ma famille, renouveler ma famille, mes enfants, et qu'est-ce qui est la partie du blé qu'il faut que je sème dans la foi, pour Dieu et avec Dieu. Ça veut dire que ce soir, Dieu vous dit, tu es un fils premier-né, tu es une fille premier-née. Église, il y a assez de gens ce soir dans ce lieu pour secouer la France entière. Pas juste Montpellier, la France entière. Voici ma question, comment est-ce que tu vois ton voisinage? Comment est-ce que tu vois Montpellier ce soir? Est-ce que tu es prêt à dire, je veux devenir plus que jamais, je veux vivre plus que jamais comme un enfant premier-né, je veux manifester l'onction. Seigneur, tu sais quoi? Tout ce que j'ai, c'est pour toi, vas-y, fais ce que tu veux, Seigneur. J'aime les mains qui se lèvent, c'est du courage et du cran. vous dire une chose, mes amis. La vie chrétienne, et je veux dire que pour l'amour que j'ai pour vous, la vie chrétienne n'est pas faite pour les mauviettes. Je m'excuse, hein, c'est un peu. Parfois, on me dit que je suis un peu trop direct. Tu t'excuses, mais j'ai pas d'autres mots. C'est pas fait pour les pleurnichards, la vie chrétienne. C'est une vie de d'hommes et de femmes de Dieu qui disent, tu sais quoi, Seigneur, vas-y, on y va, toi et moi ensemble, c'est bon, on encaisse. C'est une vie où tu as 5000 personnes, tu vois la foule avec les yeux de Dieu, tu fais, Seigneur, je vais pleurer pour elle. Je veux qu'elle soit touchée, Seigneur. Seigneur, j'ai que 2 poissons, 5 pains aujourd'hui, mais toi, t'es là. C'est pour ça, entre parenthèses, que je vous encourage plus que jamais, chaque week-end, amenez toujours quelque chose pour Dieu. Un chant, un cœur, un verset, de l'offrande, de l'argent, quel que soit, emmenez chaque jour, offrez quelque chose à Dieu. Entraînez-vous à être un canal et pas un vase. Entraînez-vous à constamment chercher les cibles de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'au fil des semaines et des mois, tout d'un coup, vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis toujours béni. Cette semaine, on a été béni par un couple. Mon épouse est là grâce à un couple qui a payé son billet d'avion. Et on est très reconnaissants, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on est passé par l'île Maurice. On a eu la grâce d'avoir, grâce à ce couple, le billet d'avion inclut tout ça, une nuit d'hôtel en amoureux. C'est chouette. C'est trop rare, mais c'est chouette. Là, on est au restaurant le midi. Et on mange au restaurant. Et l'une des responsables de l'hôtel vient nous voir pour boire un café avec nous. Et quand on se lève, je veux dire, pour les payer, la directrice d'un des départements de l'hôtel nous a offert le repas. On la connaît quoi pendant quoi 4 minutes. Et on dit, mais non, mais on va... Non, c'est bon, c'est pour moi. Quoi? Mais ça, c'est... Tout le monde me dit, waouh, t'es béni. Oui, parce que Dieu est bon. Mais peut-être se manquer, comme on dit chez nous, peut-être qu'il y a eu quelques semences avant. J'oublierai jamais quand Dieu m'a dit, Bruno, donne ta voiture. Et là, j'ai dit, arrière de moi, Satan, c'est pas Dieu. T'en rappelles, chérie? On a refait du Sud. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de réussir. J'avais une Audi A4 TDI Break. Ouais, j'ai fait un prêt pour ça, les gars. Et là, Dieu me dit, on quitte la feuille du Sud. Dieu me dit, donne tout et donne ta voiture. J'ai fait, comment ça? Ça va pas, Seigneur? Enfin, d'abord, j'ai dit Satan. Après, j'ai vu que c'était lui. Et là, je me dis, c'est bon, je la mets en vente. Je la mets en vente à un prix invendable. Si un gars m'offre la voiture au prix invendable, je sais qu'il faut que je la donne. Je vous promets, je mets la voiture en vente, je crois que c'est un mardi soir, mercredi matin, 8h, je reçois un email. Votre voiture m'intéresse, je la paye cash. Pas de négociation, rien. Je dis, Seigneur, c'est pas juste. Je donne la voiture et je rentre à La Réunion. On n'a pas de voiture, mais il reste un crédit de 7 mois. 7 mois, tu payes un crédit, t'as pas de voiture, t'as un vélo. Non, j'ai même pas de vélo en plus. Et depuis ce jour-là, Dieu a toujours pourvu pour nous, pour une voiture. Toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut donner, tu vas l'enfer, pas du tout. Je déteste l'évangile de prospérité. C'est faux, c'est affreux, ça pue. Mais par contre, je suis contre le fait que les gens choisissent de célébrer et de dormir avec l'esprit de pauvreté. Jésus a dit, je te donne la vie en abondance. Écoutez-moi bien, si vous, et on va être très très franc ce soir, si tout le monde est pauvre, qui aide les pauvres? Et là, tu fais, bon, on est 4, il reste un macatia. Ça marche une fois, un bout de pain, si vous préférez. Il faut aussi qu'il y ait des gens. Écoutez-moi bien, le petit garçon qui est venu a emmené 2 poissons et 5 pains. Si c'était tout seul, il aurait dû emmener peut-être un demi-poisson et un pain. Il emmène plus qu'il n'en faut pour lui-même parce qu'il est déjà dans une habitude d'abondance. Il sait déjà que quelqu'un va être béni. Lui était venu peut-être pour bénir 4 personnes, 5 personnes au départ. Donc déjà, il vient pour bénir 5 personnes. Comment est-ce que tu penses ce soir? Est-ce que tu penses à venir ici ou la semaine chez toi pour bénir des gens ou est-ce que tu penses pour recevoir tout le temps des gens? Combien on est ce soir? Peut-être 200 personnes, peut-être plus? Écoutez-moi bien. Si toi, tu fais une bonne action et que les 200 membres de l'église te le rendent, qui gagne, toi ou eux? Bien sûr. Donc ce soir, on va prier ensemble parce que j'aimerais qu'on puisse prier pour briser, et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour vous, un esprit de limitation. sur vos finances, mais pas seulement, sur votre vie, sur la façon de penser, et vous ne brisez pas cela en faisant juste une prière de dire « Seigneur, donne-moi plus ». Non, vous brisez cela en disant « Seigneur, je veux bénir les autres. Je veux bénir les autres. » Qui connaît cette histoire que j'ai vécue quand j'étais upgradé en business class? Qui ne connaît pas l'histoire? Bon, je m'excuse pour ceux qui la connaissent, mais ça aide beaucoup de gens. Rapidement. Il y a 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, je commence à voyager beaucoup à cause de Steve. Je voyage beaucoup. Et là, instantanément, je suis un peu fatigué parce que c'est, tu sais, toujours les voyages en économie, et c'est fatigant. Je dis, Seigneur, un jour, si tu peux, peut-être, tu peux m'offrir un business class, ce serait vraiment chouette. Des mois passent. Alors j'arrive et la femme au comptoir me dit, Monsieur Picard, bienvenue, vous avez été upgradé. Là, je me dis, Madame, ne jouez pas avec mon cœur. On fait pas une blague comme ça, c'est une caméra cachée ou quoi? Elle me dit, non, je vous promets, upgradé. Je dis, quoi, en premium? Non, en business. Je fais, en business? Là, franchement, là, tu vois, non, tu souris comme ça. Quand tu voyages une fois par an, tu t'en fiches. Quand tu voyages tous les mois, tu t'en fiches pas du tout. Là, t'arrives, et là, je passe le tapis rouge, tout le monde fait la queue, tu fais salut, ça va. Dans ton cœur. Et t'arrives comme ça, et t'arrives au salon, on t'offre du champagne. Moi, à l'époque, champagne, là, tu m'offres champagne, je prends champagne, oui, donnez-moi champagne, je suis une star, là, tu vois. Je suis content, je suis dans le canapé comme ça, les petits fours, le champagne, le vin, enfin, jus de raisin, tranquille, quoi. Et là, on arrive dans l'avion. Et dans l'avion, tu reconnais un gars qui, pour la première fois en business class, joue avec les boutons. Oh, allongé, assis, allongé, avant le décollage. Champagne? Oui, bien sûr, champagne. Mais oui, naturellement, j'en bois tous les jours. Donne-moi ça, oui, vas-y. Et là, là je commence, t'es en business class. Et un gars débarque, et là, vous savez, j'ai pas envie qu'il me parle, je veux dire, il est gentil le monsieur, mais c'est mon moment, de mon business class, que j'ai rêvé, j'ai prié aussi. Et je suis là, je regarde mon film tranquillement comme ça, j'ai mes écouteurs, le voyage se déroule bien, on mange bien, le matin, petit déjeuner, on est content. Franchement, les gars en économie, le petit déj, c'est de l'arnaque. Hein. Mais franchement, mais en business class, tu te dis, mais c'est quoi, ça vient d'où? En économie, ils te filent les restes de la bouffe de notre avion. C'est obligé, ils prennent un plateau et disent « Tiens, prends le plateau de la bouffe de l'ancien avion !» Ok, mais sérieux, c'est n'importe quoi. Et là, dans business class, et je me lève le matin, je mange, et là, l'avion atterrit. Là, je suis tout content, je suis heureux, et tout d'un coup, je me dis « Je vais au moins dire au revoir à mon voisin !» Et je me tourne vers lui, je n'oublierai jamais, ça m'a fallu 3 ans pour m'en remettre. Hein. Je me tourne vers lui et je lui prends la main comme ça et je le regarde dans les yeux. Et au moment où je le vois, Dieu dans les yeux, Dieu me dit, c'est pour lui que je t'avais upgradé. Là, mon cœur était blessé, j'étais brisé. Je me dis, mais comment j'ai fait? Pardon, Seigneur. Il me dit, c'est pour lui. Et là, Dieu m'a pris une grande leçon. Il m'a dit, Bruno, la vraie victoire dans mon royaume est celle qui est au bénéfice des autres. C'est ça la vraie victoire. Vous savez l'histoire de David, rapidement David, dans 1 Samuel 17 à Ziklag. David arrive de combat et l'armée ennemie a volé ses femmes, ses enfants, son butin et tout le reste. Vous connaissez l'histoire? Et les 600 soldats sont blessés, tristes et veulent tuer David. La Bible dit que David se fortifie dans le Seigneur. Il repart voir les gars, il dit les gars, on repart récupérer nos femmes, nos enfants, notre fortune, on repart tout récupérer. Et là, sur les 600, seuls 200 vont faire le voyage et 400 restent dans le camp, blessés, brisés, ils ne veulent rien faire, fatigués. Les gars récupèrent tout, ils reviennent tout avec le butin, les femmes, les enfants, tout, ils reviennent avec la fortune. Et ils font, ouais, on a gagné. Et là, arrive le moment du partage. Et les gars qui ne sont pas combattus veulent leur part. Et les gars qui sont battus ont dit, non, pas question, tu n'es pas venu, tu prends ta femme, tes enfants, et c'est tout, tu n'auras pas part au butin. Pas de combat, pas de butin. Et là, David fait un truc de fou, il dit, mes frères, ce n'est pas comme ça. Il dit, dorénavant, je vais installer une loi en Israël. Que celui qui se bat et celui qui ne se bat pas reçoit la même part du butin. Voici la leçon de Dieu, Écoutez-moi bien, Église. Il y aura un moment où tu seras comme ce petit garçon, mais il y aura un moment où tu seras comme cette personne qui n'a pas à manger. Et il y aura un moment où tu seras comme ce disciple. Et ta victoire, si elle est en Christ, va toujours devoir bénir les autres. Toute promotion spirituelle va toujours devoir bénir les autres. À chaque fois que tu te donnes un grade supérieur dans l'esprit, par exemple, tu dis, oh, j'ai grandi, tu as grandi, et bien tu bénis les autres plus. Ton salaire double, bénis les autres. T'as 2 voitures, emmène 5 personnes le dimanche qui n'ont pas de voiture. Tu sais, au lieu de dire je donne ma voiture, ça ne sois pas coupable. Tu as deux voitures, ne sois pas coupable. Ta femme en conduit une, t'en conduis une, ça fait, si vous avez un enfant, ça fait deux dans une bagnole, il te reste trois places, tu es dans une caisse, il te reste quatre places. Tu fais le tour du quartier, tu prends cinq personnes, huit personnes qui n'ont pas de transport, tu vas aller chercher de les ramener à l'église, on fait la fête. Tu viens d'utiliser ce que tu as, tu viens d'utiliser ce que tu possèdes. Tu viens d'utiliser ta bénédiction au bénéfice des autres. Il y a plein de gens qui en ce moment voudraient venir à l'église, n'ont pas de transport. Si vous avez une place, vous sauvez une âme. Donc ce soir, ma question est simple. Message simple, prophétique, mais simple. Qui, ce soir, ici, veut dire Seigneur, envoie-nous les milliers à nourrir, on est prêt. Parce qu'on sait qui on est et on sait où on va. C'est ton cas ce soir, lève-toi s'il te plaît. Si tu es d'une autre région, d'une autre église, lève-toi aussi. Si tu viens d'un autre pays, lève-toi aussi. Si tu viens d'une autre planète, lève-toi aussi. Écoute-moi bien, qu'on puisse te comprendre ce soir. Si tu te lèves, c'est que tu décides de prendre la responsabilité de ceux et de celles qui ne savent pas encore comment Dieu bénit. Toi, tu sais comment Dieu bénit. Et je vous lance un défi ce soir. Je me marre déjà, moi. Et on en reparle. Dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. On en reparle. Si vous faites les choses à la façon de Dieu, je vous garantis que Dieu est fidèle et juste pour faire ce qu'il a promis. C'est ça la vérité. Et soit si tu en manques d'argent, en manque d'amour, peu importe. Donne ce que tu as. Et laisse Dieu multiplier. J'ai une phrase forte, je dis Dieu ne multiplie pas ce que tu gardes. Il multiplie ce que tu donnes. Alors bien sûr, je suis totalement contre cet évangile qui manipule. On dit donne tout, ruine-toi. Pas du tout, pas du tout. Et je vous parle de ce que j'ai vécu avec Elodie, Steve me connaît bien. Et des fois, et plus, combien de fois ça m'est arrivé, je reçois un tout nouvel iPad. Je le garde une semaine. Je me dis donne ton iPad. Je fais oh Seigneur, pas encore une semaine. Maintenant je vous promets, j'ai plus d'iPad déjà, mais quand j'ai un iPad, je vous promets, je mets très très peu d'applications. Je mets une application email et bon, c'est tout. Je sais qu'il va partir. Voici la vérité ce soir. Qui veut marcher dans l'onction du premier-né? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, pas de doute, pas de regret, c'est bon? Voici la clé. Acceptez que vous ne possédez rien, que tout est un prêt, et que Dieu vous donne le droit de gérer cela pour une saison. Si ça se trouve, tu as une montre pour une saison. Tu as une veste pour une saison. Une voiture pour une saison, mais ne donne pas n'importe quand. Donne quand tu te demandes de donner, mais franchement, il vaut mieux se planter dans la générosité que de ne pas se planter dans la. C'est quoi l'inverse? Dans l'avarisme, l'avarice, l'égoïsme, le isme. Honnêtement, parce que même quand tu te plantes dans la générosité, Dieu s'en sert. Un jour, j'ai vu une petite image rapidement d'un petit feuilleton qui m'a désanimé. Un petit gars qui court avec des semences. Il court et puis il trébuche. Et il tombe et il perd les trois quarts de la semence. Il n'en reste qu'une dans sa main. Il dit, purée, je vais me faire tuer par mon père. Et il rentre chez lui comme ça et il plante une semence dans le champ de son père. Et au bout de 10-15 ans qui passent, il y a un arbre qui pousse, un arbre. Et il repasse devant le terrain dans lequel il est tombé avec toutes les semences. Et il y a une forêt entière. Là, il comprend. La semence, c'est la semence. Je veux dire, ça, la semence, c'est la semence. Que tu sèmes, tu sèmes. Et ce que Dieu nous dit ce soir, ne sème pas pour récolter, mais sème parce que tu sais que tu vas récolter, hein, mais sème pas pour récolter, sème par obéissance. Et je ne parle pas d'argent, hein. Je parle d'amour, je parle de pardon, je parle de temps, je parle de ce que vous avez. L'argent, c'est une partie des choses. Sème ta vie par obéissance. Ce soir, Esprit de Dieu, maintenant même, alors que nos mains sont levées, nous voulons prendre ce message extrêmement sérieux. Nous ne voulons pas dénigrer le Père. Le premier-né représente le Père en son absence. Le premier-né manifeste les caractéristiques du Père envers sa famille, envers ses voisins. Le premier-né a de l'autorité pour avoir accès à l'héritage, une double portion de l'héritage. Le premier-né fait toujours la différence. Le premier-né ne fuit pas lorsqu'il y a un manque, le premier-né multiplie pour combler le manque. Et l'église de Christ doit devenir plus que jamais une église de premier-né. C'est toi qui as choisi de faire de nous des premiers-nés. Mais ce soir, l'église doit choisir d'accepter de marcher comme un premier-né. Et tu vois nos cœurs ce soir, tu vois nos mains levées, Seigneur, tu vois que là où nous sommes, ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai dit moi, ce qui compte, c'est que tu as semé dans les cœurs ce soir, Esprit de Dieu. En tant que ministère prophétique, je déclare maintenant même qu'il y a une percée spirituelle dans nos vies parce que nous acceptons de devenir responsables. Amen.